Europe 1.
10h, 11h,
le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré,
Mathieu Bock-Côté,
Sonia Mabrouk.
Bonjour et bienvenue à tous au grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Et merci de votre présence.
Vous êtes
le président des Républicains. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. À l'heure où l'on s'interroge sur la riposte de Vladimir Poutine après la terrible attaque terroriste à Moscou, quelles seront les représailles et quels changements dans la guerre en Ukraine? Plus largement aussi, comment lutter contre le terrorisme islamiste, notamment en France? L'état de droit tel qu'il est le permet-il? Et puis, quelle Europe aussi dans ce contexte? Emmanuel Macron, qui se confie au JDD, fait l'éloge de l'Europe puissance. Mais n'est-ce pas un vœu pieux? Quel sursaut dans ce cas-là? Sursaut que vous souhaitez aussi, Éric Ciotti, pour la droite. Et cela passe par le score aux élections européennes. La liste LR est loin derrière le Rassemblement national, qui, dans tous les sondages, en tous les cas, écrase tout sur son passage. Alors là encore, le sursaut est-il possible? Alors que votre liste s'étoffe avec notamment le général Christophe Gomard et Céline Himard, qui vous accompagnent aujourd'hui. On les salue. Et sur tous ces sujets, pour vous interroger, je suis entourée de mes camarades Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Sonia.
Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous, Mathieu.
Bonjour.
Éric Ciotti, le bilan est très lourd. Après l'attaque terroriste à Moscou, au moins 133 morts, des centaines de blessés, une branche de l'État islamique a confirmé sa revendication de l'attentat. Poutine y voit la main de Kiev, indiquant que les assaillants devaient se rendre en Ukraine. On va en parler, mais tout d'abord, vous avez souligné sur les réseaux sociaux le fait que cette attaque nous rappeler des souvenirs très douloureux. Diriez-vous que c'est le Bataclan russe, comme on l'entend de plus en plus?
Il y a naturellement et malheureusement cette similitude, même à l'unité près dans le bilan provisoire qui est annoncé aujourd'hui, 133 morts à Moscou, 134 au Bataclan, le même mode opératoire. Donc bien sûr, il y a des similitudes, bien sûr, il y a ce choc et ça nous rappelle que la menace islamiste, et malheureusement, je crois que beaucoup ont tendance à l'atténuer, elle est là, elle est présente, elle est durable, et c'est certainement la menace la plus lourde qui pèse sur notre avenir.
La plus lourde, est-ce que vous faites une hiérarchie? C'est-à-dire, il y a la menace de la guerre et la menace terroriste islamiste. Pour vous, elle est plus importante, elle nous lie tous finalement?
L'islamisme a pour dessein de nous détruire. De détruire tout ce qui ne ressemble pas à cette idéologie mortifère. C'est une volonté d'éteindre une civilisation occidentale. Donc il y a cette menace. Elle est présente et on voit bien qu'elle gagne du terrain. Ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui se passe au Sahel, nous rappelle ce qui se passe naturellement en Afghanistan, que cette menace, loin de régresser, s'amplifie et qu'il ne faut à aucun prix baisser la garde.
Alors vous dites que certains atténuent cette menace, vous pensez à qui en particulier?
Non, mais on voit bien dans l'actualité, dans les commentaires, il y a des drames, on y répond, il y a l'émotion, il y a la communication, et puis après, on passe à autre chose. Or, l'islamisme ne passe pas à autre chose. Et il avance ses pions de façon masquée ou de façon violente, mais il est là et il progresse.
Alors, le président de la République a exprimé sa compassion vis-à-vis du peuple russe. On sait par ailleurs les tensions qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et la France. Le président de la République avait raison d'exprimer sa sollicitude, sa compassion?
Bien sûr. N'exprimerait pas, face à un tel drame, la compassion à l'égard des victimes, à l'égard du peuple russe? Et nous devons exprimer, en effet, ce soutien face à un attentat terroriste. Après, il y a la question de l'interprétation, voire de l'instrumentalisation. On a bien vu tout de suite que Poutine a voulu relier cet attentat au contexte en Ukraine. Bon, moi, j'ai noté que les services de renseignement américains avaient prévenu la Russie, il y a quelques jours, quelques semaines, d'une attaque islamiste imminente, et ils avaient décrit quasiment le scénario potentiel. Donc on a aujourd'hui manifestement, je le dis avec prudence néanmoins, mais une quasi-certitude qu'on est face à une attaque islamiste. Après, on voit bien le danger d'une instrumentalisation.
Mais justement, la question, vous avez évoqué le déni de l'islamisme. Alors, il y a presque, on a vu un double mouvement hier. D'un côté, une partie des commentateurs à l'Ouest disent « En fait, c'est un coup de Poutine ». Poutine, de son côté, dit « En fait, c'est un coup des Ukrainiens ». Comme si on était incapable de prendre au sérieux durablement, structurellement, la menace islamiste.
Bien sûr. Moi, je dis, il y a une menace islamiste. Elle est là, elle est durable. Et il faut mettre tous les moyens pour l'éradiquer. Et c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu de survie et c'est un enjeu de civilisation. Et puis, il y a ce conflit sur le continent européen, entre la Russie et l'Ukraine, ce conflit qui, j'espère, va trouver enfin une issue de paix.
Vous y croyez encore? Parce que là, la question, Éric Ciotti, depuis cette attaque, c'est quelle représailles? Au contraire, c'est-à-dire quel palier supplémentaire, si palier supplémentaire il y a pas dans la guerre en Ukraine?
C'est la menace et c'est le danger. Voilà, ce conflit, il est à la fois complexe et simple. Il est complexe parce que il appelle des menaces géopolitiques sur la planète entière, mais il est assez simple. D'un côté, il y a un agresseur et de l'autre, il y a un agressé. Il y a la violation de frontières d'un État souverain. Donc, notre devoir est d'être aux côtés du pays qui a été agressé, de le soutenir pour qu'il retrouve son indépendance, sa souveraineté, avec et il mène un combat d'un extraordinaire courage. Mais à un moment, il faudra qu'il y ait une issue à ce conflit. C'est pour ça que nous avons besoin d'aider les Ukrainiens et de leur donner la
paix. Qui dit issue aujourd'hui, qui dit le mot paix, qui dit le mot arrêt des combats, et il est qualifié en tous les cas par une partie de la classe politique, par la majorité, d'être poutinolâtre, d'avoir un esprit munichois, d'être dans la soumission. Que répondez-vous à cela?
Pour moi, le mot paix n'est pas un mot de soumission, c'est un mot d'espérance. Qui peut contester que l'objectif, à un moment, c'est de retrouver un chemin de paix en Russie, comme au Proche-Orient, ou dans tous les lieux où il y a le conflit, personne ne peut se satisfaire de la guerre. Dire cela, ça ne veut pas dire qu'il faut, il faut tout faire pour aider les Ukrainiens à être en position de force pour recouvrer la souveraineté de leurs frontières.
Alors, on dit paix, on dit guerre, mais il y a un autre mot dont on entend un peu parler, c'est engrenage. Est-ce que vous redoutez un effet d'engrenage? On a parlé récemment de la présence de troupes au sol potentiellement européennes, françaises, en Ukraine. Est-ce que vous redoutez finalement que la situation présente ressemble davantage à 1914 qu'à 1938?
Il y a ce risque d'engrenage. C'est pour ça que je me suis opposé avec force et j'ai dénoncé les propos qui me paraissent à tout le moins irresponsables. Il y a sans doute des arrière-pensées politiciennes liées aux élections européennes avec une forme de cynisme de la part du chef de l'État, mais aller sur ce terrain des troupes au sol, c'était irresponsable. Ça nous a conduit à un isolement humiliant d'ailleurs dans la communauté internationale.
Humiliation, la France a été humiliée par ses alliés,
Notre isolement sur cette position est quelque part humiliant.
Pas de tout le monde quand même. Les Polonais étaient très contents de cette position.
On nous a pas pris au sérieux. Aucun des responsables de l'OTAN n'a accrédité cette thèse. Les États-Unis ne l'ont pas fait, l'Allemagne a réagi avec vigueur, la Grande-Bretagne n'a pas suivi, donc tous ceux qui portent aujourd'hui la défense de l'Ukraine, premier soutien États-Unis, deuxième Allemagne, troisième Grande-Bretagne, ne l'ont pas fait.
Donc, et à l'inverse, est-ce qu'un pays comme la France peut exclure la possibilité d'envoyer des troupes au sol? Après tout, toute grande puissance a cette option en réserve.
Le rôle des militaires et le général Christophe Gomard, qui nous a rejoint dans le combat des élections européennes, le rappelait, c'est d'anticiper toutes les situations, de se tenir prêt à toutes les situations.
C'est pour ça qu'il faut avoir toutes les options sur la table.
Est-ce que c'est le rôle du chef de l'État d'évoquer de façon un peu provocante?
Alors,
et le but était la provocation.
Arrêtons-nous là-dessus quand même, Éric Soutier. Vous dites provocation, vous avez dit arrière-pensée, c'est-à-dire que le président français prend le risque quand même d'une guerre bien au-delà de l'Ukraine pour des arrière-pensées politiques?
Je le crains. Voilà, il a voulu replacer le conflit entre la Russie et l'Ukraine, cette agression russe contre l'Ukraine, au cœur des enjeux des élections européennes. Voilà, comme il l'avait fait pour l'élection présidentielle. Mais je peux dire que lors de l'élection présidentielle, l'attaque russe est intervenue en février Et c'était assez normal qu'elle impacte sur l'élection présidentielle. Là, il le fait sciemment, il a fait de ce conflit le sujet central de la campagne. D'ailleurs, il suffit d'écouter le discours assez irréel de Madame Hayé lors de son meeting à Lille, convoquant Chamberlain, Daladier. J'ai vu cette semaine que vous lui avez posé la question. D'ailleurs, elle savait manifestement pas trop qui était Daladier, mais on lui avait écrit un discours sans doute à l'Élysée pour faire l'unique sujet, l'unique thème des élections européennes sur ce conflit, avec un manichéisme qui installe le duo entre M. Macron et Mme Le Pen. Il y a le camp du bien d'un côté qui représente l'Ukraine, il y a le camp du mal qui représente Poutine, tous ceux qui ne sont pas avec Macron sont de l'autre côté. Et au milieu, rien n'existe. C'est ça que je dénonce, c'est ce cynisme politicien et électoral.
Nous y reviendrons dans le détail, mais pour l'instant, vous n'avez pas l'impression d'être pris dans une double tenaille. Le RN qui dit c'est un référendum sur Macron et sur l'immigration, le parti au pouvoir qui dit c'est un référendum sur l'Ukraine, ça laisse peu d'espace pour les gens de votre liste.
C'est le jeu de nos adversaires. C'est le jeu cynique et encore plus cynique du chef de l'État, parce que quand on est chef de l'État, on a des responsabilités que n'ont pas les responsables de l'opposition. On est en charge de la sécurité de la nation. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Or, c'est ce sur quoi s'aventure le chef de l'État. Bien sûr qu'on essaie de nous mettre dans ce duel, dans cette forme de complicité, mais qui, depuis des décennies, finalement, prive le pays des vraies réponses.
Alors,
le pays a besoin de réponses responsables, sérieuses, n'ont pas besoin de ce cinéma de communication qui profite à la fois au RN et à la majorité.
On va en parler, mais vous dites le pays a besoin de sécurité et aussi, j'allais dire, d'être protégé, suffisamment protégé face à la menace terroriste, surtout après ce qui a été enduré à Moscou. On va en parler, on marque une pause et on se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Mathieu Bock-Côté,
Nicolas Barré, Sonia Mabrouk. 10h, 11h.
La suite du grand rendez-vous avec notre invité, le président des Républicains Éric Ciotti. Nous avons largement parlé en première partie, bien sûr, des conséquences de cette attaque terroriste à Moscou et plus largement sur le plan de cette menace en France. Sommes-nous suffisamment préparés dans la perspective notamment des Jeux Olympiques? Êtes-vous inquiet, Éric Ciotti, compte tenu du risque prégnant, alors que des lycéens franciliens ont reçu des menaces là, il y a quelques jours et ces dernières heures?
La menace est toujours là, nous le savons. Et la période qui s'ouvre avec les Jeux Olympiques renforce, bien entendu, le fait que notre pays peut être une cible, puisque tous les projecteurs vont être braqués sur lui, qu'il y a traditionnellement et malheureusement, et l'histoire des Jeux Olympiques en témoigne, toujours des menaces liées aux grands événements qui attirent un regard planétaire. Donc il faut bien entendu être extraordinairement vigilant.
C'est le cas, vous n'avez pas de doute sur à la fois nos renseignements, l'action du ministre de l'Intérieur qui le rappelle à plusieurs reprises.
Nous avons des services de renseignement extrêmement performants. Nous avons voté il y a quelques années une loi sur le renseignement, je l'avais votée. C'était sous la présidence d'ailleurs de François Hollande qui a doté nos services de techniques, de moyens de renseignement. Ces services ont été renforcés, que ce soit la DGSI ou la DGSE ou la direction du renseignement militaire aussi. Donc on a des services très performants, mais il faut dire avec humilité que le risque zéro n'existe pas et que nous ne sommes pas à l'abri, contrairement à ce qu'on peut entendre, d'une opération qui soit projetée depuis l'extérieur. On a ce qu'on appelle ce terrorisme à bas bruit, ces personnes, ces loups solitaires qui sont difficilement détectables quelquefois, qui ont frappé. On pense à Dominique Antoine, je pense au professeur Dominique Antoine, je pense à Samuel
Dominique
Paty.
Dominique Bernard,
excusez-moi.
Les attaques à Nice également.
Voilà, il y a eu toutes
ces attaques. Ils sont de moins en moins solitaires d'ailleurs, ces loups solitaires, parce qu'on voit justement un maillage.
Il peut y avoir aussi un attentat de grande ampleur projeté. Donc, La vigilance doit être là. Je fais confiance aux services.
Mais justement, vous faites confiance aux services. Vous parlez de l'efficacité des services de renseignement avec raison. Mais de l'autre côté, est-ce que l'appareil juridique qui est le nôtre aujourd'hui nous permet de vraiment lutter contre le terrorisme islamiste? Est-ce qu'une certaine conception de l'état de droit ne paralyse pas l'État quand vient le temps de lutter contre une menace existentielle comme celle-là?
La réponse judiciaire face à la menace a toujours été forte. Elle est exprimée aujourd'hui par le parquet national antiterroriste. J'ai rien à redire là-dessus. Après, nous sommes dans un état de droit avec ses faiblesses aussi, avec ses,
lesquelles,
avec
par exemple,
avec ses failles. Notamment, on voit très bien, et on le sait, ça a été avéré notamment en 2015, qu'il y a un lien souvent étroit entre les flux migratoires incontrôlés et le terrorisme. Ce fut le cas notamment du terroriste qui a frappé dans ma ville, dans ma circonscription, la basilique Notre-Dame. Il était arrivé depuis la Tunisie quelques jours auparavant dans ces flux de migrants en situation irrégulière. On a vu qu'il y avait une infiltration tout à fait coordonnée dans les grands flux migratoires de 2015 pour préparer les attentats de Bruxelles.
Mais vous savez que lorsque vous évoquez ça...
Et de Paris. Donc, il y a une faiblesse de l'état de droit, c'est ce que nous avons voulu combattre au travers nos propositions de loi constitutionnelle dans le débat sur l'immigration. Et là, cette faiblesse, elle est toujours là. Et naturellement, il faudra être mieux armé pour y faire face.
Mais vous savez, lorsque vous évoquez ce lien entre insécurité, entre guillemets, immigration, ou les cas des exemples que vous avez donnés, une certaine presse utilise immédiatement le terme « extrême droite ». Pour interdire toute réflexion. Est-ce que vous ne risquez pas vous-même d'avoir cette étiquette qui vous sera collée parce que vous rappelez aujourd'hui ce lien?
On me l'a souvent collé, ça, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui m'importe, c'est d'être efficace. Aujourd'hui, il y a ce lien avéré, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a donné les chiffres entre l'immigration et l'insécurité. Et il y a aussi ce lien très fort entre l'immigration et le terrorisme islamiste. Qui peut le contester?
Une partie de la majorité, le président qui ne fait pas le lien directement.
Le nier, les chiffres malheureusement l'attestent. Et donc, ils appellent à une réponse. Ils appellent à une réponse pour réarmer l'État. Vous savez, de façon globale, et c'est une réponse aussi face aux conflits extérieurs, qui doivent appeler à un réarmement régalien.
Mais on entend ce mot depuis 40 ans. Et d'ailleurs, ce dimanche, à la une du journal du dimanche, Emmanuel Macron s'est confié au journal. Le JDD a eu accès, je le précise, pendant 2 jours aux coulisses d'un sommet européen. Et le président a dit aux journalistes, notamment Antonin André, l'Europe puissance ne peut plus attendre, donc je suppose, un réarmement également. Mais depuis combien de temps nous parle cette Europe puissance? N'est-ce pas un vœu totalement pieux, Éric Séti?
Disons qu'avant, on a besoin d'une Europe forte pour mieux nous protéger, naturellement, et on a besoin d'un pilier européen de défense dans l'OTAN. Mm-hmm. Je ne dis pas une défense européenne. La défense...
Vous n'y croyez pas?
Non, et j'y suis pas favorable. La défense doit appartenir aux États. C'est pas un des pays des 27 à décider si la France doit mobiliser son armée de façon conventionnelle. Et encore pire,
ça veut dire quoi, un pilier européen de défense?
Il faut qu'on ait un effort plus important des pays européens. Aujourd'hui, l'objectif de 2% du PIB de chaque pays pour la défense n'est tenu que par 10 pays. Ouais. Par 10 pays. Donc on est très loin, et même cet effort de 2% des dépenses militaires par rapport à la richesse nationale est faible. Nous souhaitons que ça soit au moins 3%. Les seuls qui... la Pologne fait un effort considérable. Ils sont presque à 4%. Donc, il faut que chaque pays fasse cet effort de défense de façon supplémentaire et puisse donc, sein de l'OTAN, constituer un pilier européen, d'autant plus que si les États-Unis se désengagent, et c'est toujours un risque qui existe, et l'élection américaine à l'automne peut y conduire, mais au-delà, il y a ce réarmement, je dirais, militaire pour protéger nos intérêts vitaux, pour protéger nos frontières, mais il y a un réarmement aussi pour protéger nos concitoyens sur notre territoire. Vous parliez de l'Europe, moi je voudrais une France puissante.
Alors, ben oui,
vous savez, vous parlez il y a 40 ans, m'avez dit, ça fait 40 ans qu'on parle de réarmement.
Est-ce que c'est faux?
Vous avez totalement raison, il y a 40 ans, je vais vous donner un chiffre, on consacrait 6% il y a un peu plus de temps, lorsque le général de Gaulle et Georges Pompidou étaient présidents de la République, on consacrait 6,5% de notre richesse nationale à ce qui fait l'État. La défense nationale, la sécurité, la justice. Aujourd'hui, cet effort a été divisé par deux. Et c'est pour ça qu'on est si faible. On consacre à peine, sur 1 000 euros de dépenses publiques, on consacre à peine 25 euros à la sécurité. C'est ridicule. C'est ridicule.
Une Europe puissante, c'est une France puissante. Lors du meeting de lancement de la campagne LR, hier, que nous avons diffusé à Aubervilliers, on a suivi respectivement le discours de Céline Himard, numéro 2 de la liste, et le général Christophe Gomard, nouvelle prise de guerre, si je puis dire, pour un général, numéro 3 sur la liste. Vous avez lancé, me semble-t-il, c'est votre phrase, Éric Ciotti, que croire en l'Europe, c'est croire en la France.
Oui, bien sûr.
Au-delà du slogan, que veut dire cette phrase?
D'abord, nous sommes européens. Et nous sommes une famille politique derrière le général de Gaulle qui a voulu la construction européenne. La main tendue au chancelier Adenauer, c'est le général de Gaulle. Ce sont eux les vrais piliers de la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale. Cette Europe, elle a apporté la paix, elle a apporté le progrès, elle a apporté aussi de la prospérité. Donc moi, je crois en l'idéal européen. Mais cet idéal européen, il a été malheureusement dévoyé.
Vous croyez en l'Europe de Madame von der Leyen, par exemple?
Justement, j'allais y venir. Moi, je ne crois pas en l'Europe de Monsieur Macron et en l'Europe de Madame von der Leyen. Parce que ça, c'est l'Europe de la technocratie, c'est l'Europe des normes, et c'est pas cet idéal, cette épopée européenne. Chacun, nous sommes les héritiers.
Pourtant,
d'abord,
vous ne faites pas beaucoup contre elle sur la scène européenne, certains disent.
L'Europe,
une partie de la droite.
L'Europe,
c'est votre famille politique en plus, von der Leyen.
Nous n'avons pas voté pour elle dans le congrès du PPE. J'y reviendrai. Mais l'Europe, c'est une épopée. L'Europe, c'est une civilisation. Et nous y adhérons. Mais l'Europe, ça ne peut pas être un projet technocratique. L'Europe, ça doit être la croissance, ça doit être la paix, ça doit être la sécurité.
L'Europe, la paix, en ce moment, ça résonne mal.
Ben oui, mais l'Europe peut nous protéger et doit nous protéger.
Mais est-ce qu'elle protège en ce moment?
Elle protège mal, parce que justement, elle n'a pas su relever les défis. Nous sommes, parliez tout à l'heure de mâchoire, mais l'Europe est enserrée entre la double mâchoire américaine et chinoise. Et il faut qu'elle retrouve cet espace. L'Europe, c'est un espace de liberté, c'est un espace de prospérité, mais nous nous faisons rogner par une forme de naïveté, de faiblesse.
Mais quand le Parlement européen vote une motion, par exemple, sur la conscience historique européenne, qui présente l'histoire de l'Europe, vous connaissez cette motion, comme une accumulation de catastrophes, de désastres, de génocides, de crimes esclavagistes, est-ce que le Parlement européen ne piétine pas la mémoire de l'Europe?
Et qui s'y est opposé avec le plus de force? C'est François-Xavier Bellamy. C'est notre délégation. Donc, naturellement, tout cela, nous le contestons. Nous contestons aussi cette approche de la décroissance avec ce Green Deal porté par Madame von der Leyen qui s'est soumis à la pression de l'extrême gauche. Ceux qui s'y sont opposés avec efficacité, avec constance, ce sont les députés républicains derrière François-Xavier Bellamy. Nul ne peut le contester. On a ce bilan sur tous ces sujets que nous avons combattus avec force. Qui a voté avec l'extrême gauche? Qui a voté avec la gauche? Qui a été le porteur d'eau de la gauche dans ces délires? Ce sont les députés de M. Macron.
On va continuer à en parler.
C'est ça aussi un de ses enjeux.
On va marquer une pause. Vous réagirez à ce qu'a dit Céline Himard, qui fait beaucoup réagir. Elle a dit « Je suis fière de n'avoir jamais voté pour Emmanuel Macron ». Diriez-vous la même chose? Est-ce que c'est une fierté?
J'ai fait la même chose qu'elle.
Vous nous répondrez après la pause. Et puis, on a appris tout à l'heure qui était la numéro 2 de la liste RN, quelqu'un que vous connaissez bien, essayiste et intellectuel, Malika Sorel. Votre réaction juste après une courte pub. À tout de suite.
10h, 11h,
le grand rendez-vous européen
avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré,
Mathieu Bock-Côté,
Sonia Mabrouk.
La suite du grand rendez-vous européen, CNews, Les Échos, avec notre invité, le patron des Républicains. Et la première question de cette partie vous est posée par Mathieu Bock-Côté.
D'abord, une petite précision, ce qu'on a vérifié à la pause. Au moment du vote sur la conscience historique européenne, le groupe LR s'est abstenu plutôt que de s'y opposer parce qu'il avait réussi à intégrer à la motion la condamnation des crimes du communisme. Fin de la nuance. Grande nouvelle ce matin pour le RN, Malika Sorel, qui est une intellectuelle reconnue, une intellectuelle qui a soutenu en 2017, soit dit en passant, François Fillon, qui était avec avec lui jusqu'au dernier moment au Trocadéro, se rallie aujourd'hui à la liste de Jordan Bardella comme numéro 2 de la liste RN pour les européennes. Comment réagissez-vous devant ce ralliement?
Moi, je ne vais pas me mêler de la composition de la liste du Rassemblement National.
Mais c'est une perte pour votre famille politique.
Sur le parcours personnel de Malika Sorel, je le regrette, mais voilà. L'important, c'est d'avoir une cohérence, de porter une proposition, un projet pour la France, pour le succès de la France en Europe, pour que l'on puisse maîtriser demain notre destin. Ce n'est pas une histoire forcément de casting.
Voici ce qu'elle dit,
il faut des compétences.
Elle dit, il faut des compétences. Vous lui daignez des compétences politiques, je parle.
Il faut être opérationnel. Vous savez, il faut sortir du constat. Le constat, il peut faire plaisir. On peut avoir la nostalgie d'un passé, ressasser les erreurs qui ont été commises. Bien sûr, aujourd'hui, ce qui importe aux Français, c'est avoir des élus qui savent les défendre, qui soient cohérents, responsables, qui aient de l'expérience.
Vous estimez que vous avez mis en place des personnes opérationnelles, telles que le général Gomard,
Céline Imar, qui est une agricultrice qui connaît mieux quiconque les problématiques de l'agriculture, qui est un enjeu majeur de notre souveraineté nationale, de conserver la capacité simplement à produire et à alimenter, à s'alimenter, à nourrir les Français. C'est un enjeu essentiel d'indépendance pour l'avenir. Quand on a le général Christophe Gomard qui a commandé l'effort spécial, qui a été patron du renseignement militaire, on a de la compétence, on a de l'expérience.
Mais permettez-moi de revenir sur la question de la compétence.
On n'est pas dans les slogans, dans les prises de guerre, de personnalités un peu du passé qui, voilà.
Mais c'est ça. Éric Ciotti, permettez de revenir en essence sur Malika Sorel, qui n'est pas une figure périphérique de la vie publique. Elle-même dit, je vais au RN.
Elle n'est pas une figure centrale non plus.
Ben, tout le monde, en 2017, vous étiez très heureuse de la placer au Trocadéro avec François Fillon en la présentant comme une prise de guerre, à l'époque. Je ne pense pas me tromper.
Elle était parmi les centaines de milliers de Français qui étaient là.
Et parmi les quelques-uns juste à côté de François Fillon.
J'y étais aussi, voilà.
Effectivement, vous y étiez.
Elle n'était pas
alors,
très loin de moi.
Mais j'y reviens à ce moment. Elle nous dit que c'est un souci de cohérence qui m'amène aujourd'hui à rejoindre le Rassemblement National. Donc, est-ce qu'elle perd en valeur aujourd'hui? Est-ce que la qualité de cette femme dont vous vous revendiquiez à l'époque se dégrade parce qu'elle change de parti?
J'ai jamais rien revendiqué là-dessus. Hein. Donc voilà, il y avait des soutiens divers, multiples, en rassemblement. Aujourd'hui, c'est son choix. Est-ce qu'il est de cohérence? Est-ce qu'il est d'opportunisme?
Peut-être une dernière réaction sur ce qu'elle dit.
Je ne regarde pas ce qu'il y a sur la liste du RN. Je regarde, connais-nous une liste d'hommes et de femmes compétents, enracinés et qui défendront
peut-être
la France.
Peut-être une dernière réaction à ce qu'elle dit quand même. Elle dit, je travaille avec Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Fillon. Désormais, j'estime que le Rassemblement National est le seul parti qui défende les intérêts supérieurs de la France et du peuple français. À cela, quelle réponse vous apportez? C'est-à-dire que le RN aurait, selon elle, le monopole de la défense du peuple français.
C'est naturellement grotesque. Voilà, c'est naturellement grotesque. Mais après, vous savez, la vie politique n'est pas dénuée d'opportunisme, voilà. Donc, il y en a qui vont dans ce sens. Libre à eux.
Libre à eux. Elle a souvent écrit sur différents sujets, notamment sur celui de l'identité ou encore de l'immigration. À ce sujet, Éric Ciotti, vous défendez fermement.
Écrire, c'est bien. Agir, c'est mieux. Voilà.
Alors, parlons d'action.
Quand on porte des propositions de loi constitutionnelles, désormais de référendum d'initiative partagée, nous sommes les seuls à le faire. Sommes les seuls à poser les textes parce que nous sommes peut-être les seuls à pouvoir les écrire.
Vous êtes les seuls avec
la différence.
Vous êtes les seuls avec Reconquête, je ne me trompe pas, qui ont proposé d'abord ce référendum auquel vous êtes rallié, non?
Reconquête n'a pas de député, donc il n'a pas la capacité à porter ce référendum. Un référendum d'initiative partagée, il nécessite 185 parlementaires. Nous en avons 190. Reconquête n'a pas un député et je crois qu'il y a un sénateur.
En
donc,
tous les cas.
La crédibilité, l'expérience, la compétence. Vous savez, on peut se nourrir de mots, de slogans. Il y a des constats que j'ai pu partager. Et je l'ai dit, je ne vais pas me renier avec Éric Zemmour. Mais quand je vois aussi aujourd'hui sa dérive, il n'y a plus qu'un thème dans cette campagne. Et quand je vois que son seul souci, c'est d'attaquer la droite et le Rassemblement national en disant qu'il est partisan de l'union des droites, sincèrement, soyons sérieux.
Vous parlez
soyons
de dérive sérieux. À son sujet, vous pouvez la qualifier ?
Oui, parce que tout ça n'apporte plus rien, quoi. Tout ça n'apporte plus rien. Ce qu'attendent les Français, c'est qu'on change une situation qui est grave. C'est de la compétence, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. On ne peut pas se contenter de constats et de slogans. La vie politique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la communication. La communication incessante, c'est le pouvoir, mais c'est aussi une partie de l'opposition.
Et vous, vous ne faites jamais de communication, Éric Ciotti. Vous avez le monopole de la crédibilité, réponses et des solutions.
Nous avons la volonté de responsabilité. Parce que la situation, elle est grave, elle nécessite de l'expérience, elle nécessite de la compétence. Redresser ce pays, s'il en est encore temps, sera un défi immense.
Alors sur l'immigration,
on s'est effondré. Et aujourd'hui, sur tous les sujets, sur le régalien, sur la sécurité, sur la défense, on parlait de ce réarmement, sur la diplomatie, mais sur le modèle social aujourd'hui qui dérive, sur les prélèvements obligatoires. Je pense qu'on va venir sur ces questions budgétaires.
Qu'on était
sur
l'immigration.
Il faut de la responsabilité.
Comment parce que pour l'instant, ça reste aussi, là, pardonnez-moi, un vœu pieux. Votre projet, votre proposition, et c'est le bureau du Conseil constitutionnel de référendum partagé. Gabriel Attal a fourni de son côté un contre-argumentaire pour faire capoter votre projet. Le Conseil, je le précise, a un mois pour les valider. En fait,
avant le 14 avril.
Vous êtes confiant vraiment sur la suite ou alors est-ce que ce n'est pas là encore un coup
Je ne me désespère pas que le Conseil constitutionnel se prononce en droit. S'il se prononce en droit, les Français pourront, pour la première fois dans leur histoire, répondre à des questions qui sont des questions politiques sociales, donc conformes à l'article 11 de la Constitution, mais qui ont une incidence sur l'immigration. On a posé dans notre proposition de loi référendaire, il y a 5 sujets. Il y a notamment un qui est essentiel, qui est majeur, c'est de dire que un étranger qui arrive en France, dès le premier jour de son arrivée, ne pourra percevoir des prestations sociales non contributives. Non contributives, ça veut dire que ce n'est pas la contrepartie d'un travail. Un étranger qui arrive, qui a un titre de séjour, une carte de travail, qui travaille, il paie des contributions, il est normal qu'il ait la sécurité sociale, qu'il ait droit à tout ce qui est lié au travail. En revanche, quelqu'un qui arrive dès le premier jour, qu'il ait les APL, les allocations personnalisées au logement, qu'il ait les allocations familiales, qu'il ait les allocations vieillesse, l'APA, ça c'est un scandale.
Mais vous sous-entendez que le Conseil constitutionnel a perdu un peu l'habitude de se prononcer en droit et fait de la politique?
Écoutez, moi, je suis cohérent. Le Conseil constitutionnel a censuré 32 articles de la loi immigration, notamment...
À la demande du président de la République.
Vraisemblablement, parce que le président de la République a joué une fois de plus un jeu de dupes.
En tout cas, il l'a saisi.
Il a fait semblant. Alors, il a saisi officiellement, mais je pense qu'il y a eu des négociations en coulisses. Il a fait semblant de nous poser un texte de fermeté, qui était un texte rempli de mesurettes. Nous l'avons consolidé avec le Sénat, avec Bruno Retailleau, avec l'Assemblée nationale, avec Olivier Marleix, considérablement. On est arrivé à un texte de fermeté. Il a été censuré. Mais pourquoi le Conseil constitutionnel le censure ? Pas sur le fond. Ils ne nous ont pas dit que nos mesures étaient contraires à la Constitution. Ils nous ont dit que ces mesures n'avaient rien à voir avec un texte
c'est pour
sur
ça
l'immigration.
Qu'on vous demande là, qu'est-ce qui vous fait croire ça, là, que il va maintenant donner un blanc-seing.
Je termine deux secondes mon raisonnement en disant ces mesures, c'était des mesures sociales. Notamment sur cette disposition où on dit avant 5 ans, pas d'allocation pour un étranger. Et là, le gouvernement fait un mémoire où il dit « Ah non, ce ne sont pas des mesures sociales, ce sont des mesures liées à l'immigration. » Alors, il faut dans la vie être cohérent. On ne peut pas censurer un texte en disant « Ce ne sont pas des mesures liées à l'immigration, ce sont des mesures sociales. » Et demain, refuser ce référendum au motif que ces mesures, elles ne seraient pas sociales, mais liées à l'immigration.
Mais justement, par souci de cohérence.
On serait dans une supercherie politique.
Selon vous, les mesures nécessaires pour maîtriser l'immigration sont-elles possibles dans le cadre actuel ou elles sont impossibles sans le passage par le référendum?
En tout cas, nous avons trouvé ce biais. Il faudrait poser des questions beaucoup plus larges. Par exemple, sur le regroupement familial. que nous voulons limiter, sur les expulsions que nous voulons favoriser. Ça, dans le cadre actuel, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avions déposé une proposition de loi constitutionnelle, elle existe toujours, qui permettait de modifier notre constitution et de soumettre, c'est un peu technique, mais au titre de l'article 89, cette modification constitutionnelle aux Français. La question, elle est simple, sur l'immigration, il faut que les Français se prononcent. Globalement, les Français veulent moins d'immigration. On leur refuse le droit à se prononcer. Un petit cénacle les prive de leur volonté d'exprimer même leur volonté. C'est un scandale démocratique. Et M. Attal et M. Macron participent à ce blocage. Ils ont peur du vote des Français. Parce que nous le connaissons, le vote des Français. Ils s'opposeront très clairement à cette dérive migratoire qui fait que l'année dernière, on a accueilli légalement 530 000 étrangers sur notre territoire.
Une question d'actualité.
Ce n'est pas acceptable et on ne peut plus continuer.
Sur un autre vote, avant de marquer la pause et d'aller aussi au cœur des Européennes, en pleine crise agricole et à quelques semaines des élections, justement, une large majorité du Sénat a décidé de voter contre le CETA. Plus précisément, ce projet de loi de ratification de l'accord commercial entre l'UE et le Canada. Comment vous expliquez ce qui s'est passé, Éric Ciotti ?
Écoutez, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu dans notre pays et partout en Europe une révolte agricole. Que les agriculteurs, et Céline Imar a été au cœur de ce combat, on dit ça, arrêtons maintenant avec les délires. On a besoin de notre agriculture. On a besoin de mettre un terme à ces déséquilibres qui font qu'on impose à nos agriculteurs qui produisent, qui sont sans doute ceux qui travaillent le plus dans notre pays.
Mais vous savez que nos exportations vers le Canada ont augmenté depuis la conclusion de l'accord.
Très peu.
À d'un tiers.
Très peu.
Ah bah quand même.
Il y a 1 milliard de plus.
33% de plus.
1 milliard de plus d'exportations. 1,1 milliard et il y a 1,2 milliard de plus d'importations. Donc globalement...
Sur les produits agricoles, on a fortement bénéficié.
L'accord global pour la France, il est déficitaire. Pas beaucoup, mais de 55 millions d'euros. Mais il est déficitaire. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans cette crise agricole ? Et le président de la République lui-même, alors je vois aujourd'hui les cris d'orfraie, il a dit... Il ne faut désormais, dès qu'on impose des normes à nos agriculteurs, il faut les imposer à nos partenaires. Le CETA, il dit quoi ? Il y a un problème sur l'élevage. Sur l'élevage. On va favoriser l'importation d'animaux canadiens, de viande venant du Canada, qui ne bénéficient pas des mêmes contraintes qu'on impose à nos agriculteurs. Il y a 41 produits phytosanitaires qui sont interdits en Europe, qui sont autorisés au Canada. Donc nous voulons ce qu'on appelle les clauses miroirs. Ce qu'on impose aux Français, aux Européens, on l'impose aux autres. C'est un moyen de négociation. On dit à l'Europe, pour le Mercosur et pour les autres traités, nous voulons arrêter d'être naïfs. Voilà. Cet accord, il n'a pas été voté, il n'y a pas que la France. Il y a 10 pays européens qui ne l'ont pas ratifié, notamment l'Italie, la Belgique et la Crète. Et donc, aujourd'hui, nous disent, ça veut dire qu'il y a quand même un problème, négocions mieux, revoyons, soyons moins naïfs.
Une courte pause et on se retrouve place aux Européennes, même si nous en parlons évidemment via ces thèmes depuis tout à l'heure.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Mathieu Boccoté,
Nicolas Barré, Sonia Mabrouk.
La suite du grand rendez-vous européen CNews, Les Échos, notre invité Éric Ciotti, président des Républicains. Nous parlons évidemment de la campagne des Européennes, meeting de lancement hier. Et puis on a diffusé les discours. Il y avait Céline Imar, Général Gomard, vous avez salué leurs compétences dans différents domaines. Et puis il y a une question, est-ce qu'il faut s'ouvrir aux autres, Éric Ciotti, s'ouvrir aux sarkozystes, hein, pour reprendre une célèbre formule. On pense notamment à Brice Hortefeux et Nadine Morano. Est-ce que vous allez aussi donner une place éligible aux fidèles?
Je ne ferai pas de confidence sur la suite de la liste. Il y a beaucoup de compétences. Nous voulons naturellement porter le rassemblement le plus large possible. Nous le ferons aussi avec nos amis centristes. C'est une tradition. Donc,
il reste plus beaucoup de place là, pour les plus proches.
Pourquoi?
Bah écoutez, parce qu'on s'est compté.
On n'a pas de limite.
Bah oui, mais
est-ce qu'ils seront en position d'éligibles, c'est la question.
Nadine
Morano et Blas.
Alors où placez-vous le curseur?
Vous êtes à 7-8% dans les sondages, ça fait 7 à 8 députés.
Hein. L'objectif est de faire beaucoup plus. Donc,
oui,
voilà. Et
certes.
Puis, nous comptons sur la compétence de ceux qui vont être dans la suite de
mais
la liste.
Mais vous entendez
le
mécontentement
aussi
de ceux qui accompagnent le parcours politique depuis longtemps et qui ne se voient pas ratifier.
Composer une liste, et nous le faisons avec François-Xavier Bellamy, n'est pas la chose la plus simple. Voilà. Mais je crois que ce que nous avons fait depuis le départ montre ce que nous voulons, ce que nous sommes, c'est-à-dire, je le dis, le parti de la responsabilité, un parti de gouvernement, un parti de sérieux dans une situation du pays extrêmement difficile.
Ça ne paye pas davantage dans les sondages, Éric Ciotti. Pourquoi aujourd'hui? Comment vous l'expliquez?
Pour l'instant, il y a ce piège de communication, ce duo qu'a voulu installer Emmanuel Macron et qui est un duo d'impuissance. Parce que depuis des décennies, on nous joue le même scénario. On n'a pas élu des personnalités pour ce qu'ils représentaient, pour leur projet, pour leur programme. On les a élus contre Marine Le Pen ou contre le père de Marine Le Pen depuis des années. Il y a eu une exception.
Aujourd'hui, c'est une autre figure.
Il y a eu une exception, c'était celle de Nicolas Sarkozy. Eh bien, moi, je voudrais aujourd'hui qu'on revienne au fond, qu'on ait une vision stratégique, qu'on arrête avec ce court-termisme de la politique qui fait tellement du mal. Les slogans, la communication, les gants de boxe, tout ça, c'est dérisoire. Alors qu'il y a des Français qui souffrent, alors qu'on a des comptes publics qui sont en situation désastreuse, qui nous menacent de l'effondrement.
Vous dites que vous êtes un parti de gouvernement. C'était vrai, mais est-ce que ce l'est encore? Ça fait un moment quand même que les LR qui veulent participer au gouvernement rejoignent la coalition macroniste aujourd'hui.
Je ne sais pas où on rejoint la coalition macroniste. Nous sommes dans l'opposition.
Mais ça fait un bon moment que vous n'êtes plus au gouvernement.
Je suis dans l'opposition. Bah, oui, malheureusement, depuis 2012...
Mais qu'est-ce qui vous distingue de ce point de vue, par exemple, du RN ou de Reconquête ou d'autres partis LFI qui ne sont pas au gouvernement non plus?
Notamment sur la question économique, dont on parle peu, mais qui va être la question centrale pour les années à venir.
Parlons-en.
Quand un pays est asphyxié par 3 200 milliards d'euros de dettes, lorsque nous avons le record d'Europe des dépenses publiques, et surtout, par voie de conséquence, le record du monde des impôts et des charges, on voit bien que tous ceux qui travaillent n'en peuvent plus.
Sur ce sujet des dépenses
aujourd'hui,
publiques,
les Français,
dans quel domaine est-ce qu'il faut tailler pour
vous ? Les Français sont privés du pouvoir d'achat. Les Français sont privés du pouvoir de produire les entreprises. Les Français sont privés du pouvoir de transmettre. Donc on veut redonner aux Français ce pouvoir d'achat, ce pouvoir de produire, ce pouvoir de transmettre. Vous savez, on a des impôts qui sont en moyenne supérieurs par an de 130 milliards d'euros à la moyenne européenne.
Mais ça, c'est le constat, on sait ça.
Les mots que vous avez utilisés sont forts. Le même chemin que la Grèce, c'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui, qui a été utilisé il y a quasiment 20 ans par François Fillon. Est-ce que vous le réitérez?
Monsieur Macron sera l'homme des 1000 milliards de dettes. Il y a l'homme qui valait 1 milliard, lui, ça sera l'homme qui vaudra 1 000 milliards de dettes. Fin 2024, Monsieur Macron aura accumulé depuis son élection 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires.
D'accord, sous Nicolas Sarkozy, ça avait augmenté de 600 milliards. La question maintenant, c'est quelles dépenses ont réduit?
C'est moins, et il y avait la crise des subprimes.
Pardonnez-moi,
Hors
période de crise. Oui, voilà, aujourd'hui, on va avoir un déficit public, des comptes publics.
Comment vous qualifiez
en 2023 de 5,6%.
Monsieur Ciotti, pardonnez-moi, je voudrais juste que vous qualifiez, parce que vous avez eu cette phrase qui a marqué, c'est-à-dire que nous empruntons le même chemin que la Grèce. Oui. François Fillon avait utilisé ce mot et cela avait provoqué beaucoup de réactions. La faillite, est-ce que vous diriez que nous sommes en faillite, au bord de la faillite, nous risquons la faillite?
Lorsque François Fillon empruntait ces mots, nous étions à 1 200 milliards d'euros de dettes. Nous serons 2 000 milliards d'euros de plus. Tout ça ne peut plus durer. Il faut dire la vérité aux Français. Aujourd'hui, on a de la chance parce que la signature de l'État, vous le savez bien, est encore forte. On prête à la France. Les obligations assimilables du Trésor sont achetées très vite lorsqu'elles sont émises. Donc, il y a une signature encore crédible. Mais on est en train de perdre cette crédibilité. Vous savez, je ne veux pas vous accabler de chiffres, mais à la fin du quinquennat Macron, on remboursera 80, le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement de la dette, intérêt, sera de 84 milliards d'euros. C'est-à-dire 4 fois le budget du ministère de l'Intérieur. Une fois et demie le budget de la Défense, plus que l'éducation. Est-ce qu'on peut gaspiller cet argent?
Non, d'accord. Le gros de nos dépenses publiques, vous le savez, c'est des dépenses sociales.
Absolument.
Concrètement, dans quelles dépenses sociales voulez-vous tailler? Sur quoi sommes-nous trop généreux de votre point de vue?
D'abord, ce modèle social, il est trop généreux sur les allocations. Vous savez, moi, le modèle, il est simple. Il faut favoriser le travail. Il faut arrêter de pénaliser le travail. Ce modèle social, il encourage trop souvent le non-travail. Il faut réduire les critères d'indemnisation du chômage pour reflécher beaucoup de Français vers le travail. Il faut limiter le cumul des allocations sociales. Il faut mieux lutter contre les dérapages de ce système. C'est là où sont les enjeux. On tape toujours au même endroit. Vous savez, dans les 10 milliards d'économies, on va enlever 130 millions d'euros à la police, 118 millions d'euros à l'administration pénitentiaire, là où ils sont déjà dans une situation, aujourd'hui, ils sont à l'os, ils sont dans une situation insupportable, ils manquent de moyens.
Conclusion, comment vous qualifiez la situation?
Donc,
vous ne m'avez pas répondu.
Extrêmement grave, préoccupante. Si les taux d'intérêt augmentent, on ne tiendra plus. Déjà, l'écart entre les taux allemands, ce qu'on appelle le spread, et la France sont en train de s'écarter. Donc, il faut réduire nos dépenses publiques.
Merci.
Il faut diminuer notre modèle social et il faut arrêter de le faire financer par le travail. Aujourd'hui, on a des salaires trop faibles et on a des impôts trop lourds parce que, justement, tout pèse sur le travail.
Et pour un objectif de redressement, on l'a bien compris, parce que vous l'avez répété à plusieurs reprises. Merci Eric Ciotti, c'était votre grand rendez-vous ce dimanche. Je remercie évidemment mes camarades, Nicolas et Mathieu, et on se retrouve très bientôt. Bon dimanche à vous sur nos antennes respectives.